Bonjour à toutes et tous, curieuses et curieux, post-punk et new waver, rêveurs et clasheurs, vous écoutez Londres Curieuse 2024-2025, en tout cas si on arrive jusque-là, et c'est une excellente idée, continuez à nous écouter. Aujourd'hui dans Londres Curieuse, le passé s'invite dans le présent et se renouvelle. À la fois on réactualise la fin des années 80, ou plutôt la scène musicale française de cette période, puisque la programmation du Bourneau nous y invite, et on se livre à un petit exercice de boule de cristal, puisque, alors sans votre autorisation, chers invités, je suggère que nous fassions une expérience en mettant en parallèle les courants musicaux et la situation des radios locales, pour essayer d'y déceler notre avenir. Alors, radio locale, quoi ? Est-ce que je veux souhaiter un bon anniversaire à Info RC qui fête ses 40 ans cette année ? Alors, oui, bien sûr, cette radio collègue, complice même, qui œuvre en milieu scolaire. Toi qui es né quelques années après Fréquence 7, dans ce bouillonnement créatif et culturel des années 80, évidemment, bon anniversaire. Mais en fait, non, je voulais pas tout à fait parler de ça. Je voulais évoquer ici, sans m'étaler non plus, parce qu'on va y revenir, le projet de loi de finances 2025 présenté par le gouvernement qui annonce une réduction de 35% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, qu'on appelle, nous, entre intimes, le FSER. Ce fonds de soutien fait vivre plus de 750 radios associatives locales, puisque, en moyenne, il représente, ce fonds de soutien, 40% de leur budget, et pour nous, Fréquence 7, c'est 70% de notre budget. Au passage, ce sont les radios locales qui vont supporter le gros de ces coupes budgétaires demandées aux médias et industries culturelles. Nous les bouseux, loin de la mairie de Paris, ou en tout cas loin de Paris, puisque nous allons supporter 10,4 millions de baisses sur les 12 millions prévus. Tiens, dans la tête des radios locales, alors qu'on loue les mots de pluralité, diversité, ruralité, j'ajouterais peut-être duplicité, inconséquence et irresponsabilité. Mais comme nous sommes là pour parler de la scène post-punk française des années 80, autour de l'événement de cette fin de semaine proposé par Le Bourneau à Aubenas, je me demande ce que pourrait nous apprendre la scène musicale de notre situation. D'autant qu'on a grandi ensemble, hein, au début des années 80, l'émergence des radios associatives et concomitantes contemporaines de cette scène musicale. Alors, prenons le point de départ, c'est le punk et son No Future. Là, le parallèle est fusionnel. Effectivement, No Future, après l'annonce du gouvernement. Et ensuite, quoi ? Alors, soit complètement rien à foutre de cette cure d'austérité. On en a cure, si vous aviez loupé le jeu de mots subtil. On ne fait rien et adviendra ce qui adviendra. Soit dans une posture très stoïcienne, où l'on accueille la situation, on ira puiser de manière pertinente du côté de Marquis de Sade. Je ne sais pas si vous avez les références, groupe mythique de la scène rennaise de la fin des années 70 et du début des années 80. DJ Steph, ici présent, nous en reparlera. Donc le Marquis de Sade, pour sublimer la souffrance et y trouver un peu de plaisir, jouir de la mort de la radio, quoi, ou de la suppression d'un poste ou deux. Soit, autre option encore, mais ça s'y apparente un peu, on prend de la distance, on reste froid, on lorgne avec justesse du côté de la cold wave. Et là, quand même, il y a de l'espoir, parce que l'étincelle sous la glace n'est pas morte. Si le punk is not dead, la cold wave non plus, à l'image de Cass Product, groupe culte de la new wave hexagonale, qui renaît en 2021 en groupe rennais, justement, sous le nom de Cass Product Reload, et qui sera là en chair, en os, en voix, en charisme, tout en vibration, samedi au Bourneau. Cass Product qui est aussi vu comme un groupe mutant, synthé et pop, alors effectivement, prêt à se réinventer, ça nous ouvre des perspectives aussi. Cass Product qui enfin est vu comme le précurseur de l'électro-cash, Clash, pardon. Et là, on entrevoit une autre possibilité pour nous, radio associative, le clash. C'est une suggestion. Mais je reste là-dessus, parce que je ne veux pas perdre plus de temps sur le cœur de notre sujet du jour, l'événement de cette fin de semaine, un focus de 3 jours sur la scène post-punk alternative des années 80, imaginé par Plume, le service culturel de la ville d'Aubenas et la salle Le Bourneau, en partenariat avec la FNAC et le cinéma Le Navire, avec au menu une expo qui est déjà visible maintenant, un concert de casse-product, une projection de films documentaires, des séances de dédicaces, et puis des témoins de l'époque qui sont là pour en parler. Et pour évoquer cette ébullition artistique et musicale qui hante toujours notre présent, le ressuscite et même le réinvente, Armand Sossac, programmateur de la salle du Bourneau. Ouais. Salut Armand.
Salut.
Hervé Le Carras, qui est directeur du service culturel de la ville d'Aubenas. Salut Hervé.
Salut, salut.
Plume, dont le nom est à l'inverse de sa biographie, très dense. Plume, qui trempe dans toute cette scène depuis la fin des années 70, en tant que batteur, percussionniste, producteur, réalisateur, et puis plus, on en parlera, et qui a imaginé avec nos autres invités ce focus sur les années 80. Salut Plume.
Bonjour tout le monde.
Aussi avec nous dans le studio, bah, j'en parlais, DJ Steph.
Oui, voilà, bonjour à tous.
Féru de musique hexagonale au point d'en faire une émission tous les lundis, un lundi sur deux entre Hexagon Live et Hexagon Jazz.
Et c'est la 50e ce soir.
Et c'est la 50e ce soir, et c'est aussi pour ça que tu vas nous en parler, parce que tu as concocté une petite émission spéciale en résonance avec l'événement de cette fin de semaine. Et puis derrière la vitre, salut Sylvain.
Salut, salut.
Et Oscar, qu'on accueille pour cette semaine, et puis un petit peu plus aussi, Oscar, à la réalisation. Salut Oscar. Et puis Clara, qui est là, qui m'a aidé aussi à préparer l'émission. Salut Clara. Tout ça, on en parle après le non-agenda, puisque il y a 35% d'émissions en moins, on l'a décidé, donc il n'y aura pas d'agenda. Par contre, il y aura la Minute Asso, de ce lundi, où nous recevons Samuel Géry, la Fédération des foyers ruraux Ardèche-Drôme, qui viendra nous parler des prochaines formations à destination des bénévoles, et notamment celle de la SACEM, qui aura lieu le 17 octobre à Lussas. Ça, ce sera en toute fin d'émission. Mais avant, eh bien, on se met en jambes et en oreille avec un peu de musique. Casse Product et Mind.
You break me every time, but I know what is real. You think that all humans just don't know how to feel. You kick around citizens who don't know what is real. You deal with people's heads, they don't know where they go. And each time that you kill the brain, you begin to see me. Above. dress, you've got to care. I know what is the verdict. It's the money you want and the minds you kill. It's the power of life and the lives you steal. Exploit men and their minds. It's for the good of mankind. You're up to have your mind programmed. You realize we want your mind. Good for mankind. We want your mind. We want your mind.
Oh yes. Casse Product, Mind. Le morceau qui fait l'ouverture de l'album Black and Noir, sorti en 1990, comme une mise en bouche pour commencer la partie magazine de l'onde curieuse consacrée à la scène post-punk alternative des années 80 à l'occasion du temps fort de cette fin de semaine qui aura lieu au Bourneau, au Navire, à la FNAC dans la ville de Bonnat, avec nos invités Armand Sossac, programmateur de la salle du Bourneau. Re-salut Armand.
Re-salut.
Hervé Le Carras, toujours là aussi, directeur du service culturel de l'AIM de Bonnat.
Re-salut.
Plume.
Et re-salut aussi.
Et Steph, DJ Steph.
À l'écoute.
Toujours. Alors, pour qu'on s'imprègne tout de suite un petit peu de cette ébullition des années 80, et pour comprendre un petit peu où on va, j'aimerais qu'on revienne au départ du projet. Plume, tu es aussi l'instigateur, enfin, tu as imaginé, co-imaginé avec nos invités cet événement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Quelle est l'origine de tout ça ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ben déjà, je suis nouvellement installé dans la région. Ça fait 3 ans que je me suis installé ici. Et comme je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Ardèche Afrique Solidaire, qui avait fait un festival qui s'appelle Images et Paroles d'Afrique, et qui a pour partenaire notamment le Centre Le Bourneau, j'ai rencontré Hervé une première fois. Et ensuite, quand il y a eu le changement de programmateur du Centre Le Bourneau, on a organisé un rendez-vous pour que je puisse rencontrer Armand Sossac, qui venait d'arriver donc dans ses nouvelles fonctions. Et je lui ai dit un petit peu mon parcours. Et notamment quand j'ai parlé du fait que j'avais joué moi-même avec Casse Product, c'était un des groupes avec lesquels j'ai joué, il me dit « Ah oui, Casse Product », il était super enthousiaste là-dessus. Alors je dis « Bah écoute, si ça t'intéresse, figure-toi qu'il y a aussi un documentaire qui est sorti sur les années 80, qui s'appelle « So Young and So Cold », je disais « But » avant, mais c'est « And So Cold ». De Otomo, et qui parle de ces années-là, des années 80, dans la région de Nancy. Alors, dans ce documentaire, il y a évidemment Casse Product, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres acteurs de l'époque. Ça montre bien l'ambiance qu'il y avait, l'espèce d'ambiance do-it-yourself qui était prépondérante quand même à cette époque-là, et qui venait du punk, hein, mais qui a continué à perdurer. Et puis voilà, puis après j'ai dit, bah tu sais, je connais aussi un photographe qui a fait des photos sur ces années-là. Et puis voilà, et puis du coup Armand était très enthousiaste, et c'est lui qui avait imaginé qu'on puisse installer des photos dans la ville. Donc ça, moi je savais pas qu'on pouvait le faire. Donc voilà, si vous voulez, un peu tout cet événement, c'est Armand, Hervé, enfin le centre culturel de Aubenas, le service culturel de Aubenas, qui a mis en place tout ça sur des propositions que j'ai faites avec des gens que je connaissais. Mmh. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que c'est né. Mais il y a eu un réel enthousiasme. Enfin, Armand est quelqu'un de très enthousiaste. Donc, ça a facilité les choses. Et puis, je dois dire que ça fait 1 an et demi, en fait, hein, qu'on a commencé à travailler là-dessus. Hein, ça a pris du temps. Et cette collaboration était très, très sympa. Et puis, moi, je les remercie de m'avoir fait cette confiance, quoi, voilà, de m'avoir fait confiance.
Alors effectivement, ça prend plusieurs dimensions, plusieurs facettes. Tu as parlé de So Young and So Cold, le documentaire. On peut peut-être entendre, alors ça c'est le morceau So Young and So Cold de...
C'est un morceau de Casse Product.
De Casse Product. On entend juste...
Ouais.
pour se mettre, pour se remettre aussi dedans. On est dans les années 80. Alors, ce documentaire, vous nous en dites un petit mot, peut-être ?
Bon, ben oui.
Armand.
D'accord, j'ai compris. J'ai vu ton regard, Hervé. Oui, j'ai eu la chance, de le voir. Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste, en fait, de ces années-là, au niveau de la musique. Et il met vraiment en évidence des caractéristiques de cette période et, en fait, de la nécessité de créer avec un manque de moyens. Donc les punks, grosso modo, ils disaient « Bon, ben, on connaît trois accords, c'est pas grave, on va faire de la musique. » Mais il y avait quand même un batteur, un bassiste, un guitariste. Là, c'est bon, on n'a même pas de batteur, on n'a pas de guitariste, on a une basse, on a une machine, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on fait quand même de la musique. En fait, c'était une évolution de ce do-it-yourself. Et du coup, ça, la contrainte crée, en fait, l'ingéniosité, crée la dynamique, crée la nouveauté, et du coup, crée en effet ce vivier d'exploration musicale. Mais qui est passionnante et qui est marquante et qui continue en fait à irriguer la musique d'aujourd'hui. Et ce film montre bien ça en fait. C'est vraiment très très chouette. Et justement pour des gens comme moi qui sont, on n'est pas des spécialistes, je crois que de voir ce film et surtout derrière le débat, c'est un moment important en fait, ce débat de vendredi soir au navire, parce que c'est le moment vraiment de l'échange, d'un échange du public avec des acteurs majeurs de cette période. Donc c'est vraiment le c'est en fait tout est évidemment le concert de Casse-Product, c'est la Tour Eiffel, je dirais, de l'ensemble. Mais à Paris, il y a la Tour Eiffel, mais il y a Paris. Et là, en fait, le concert de Casse-Product, c'est la Tour Eiffel, l'événement, mais ça ne veut pas dire que les autres quartiers de cet événement ne sont pas importants. Et entre autres, ce rendez-vous-là, il me semble primordial parce que c'est la rencontre publique. Artiste. Et voilà, et je crois que je serai le premier à avoir envie de poser des questions, peut-être, parce que moi-même, ignorant peut-être de certaines choses, et ravi de pouvoir échanger avec des gens qui ont été immergés dans la créativité de cette époque.
Plume, tu voulais ajouter ?
Mais oui, je vais profiter de l'occasion, parce qu'en fait, on m'a téléphoné pour me demander si c'était nécessaire de réserver pour la projection. Alors j'ai dit que je ne savais pas, que je demanderais à Armand Sossac que je devais voir bientôt. Peut-être qu'on peut répondre à la radio directement.
Merci de me poser cette question en direct. Je pense qu'il faut appeler le navire parce que nous,
c'est ce
voilà.
Que
nous
c'est ce que sommes, j'ai dit aussi.
Mais... Voilà, pour les réservations, vous pouvez évidemment réserver. Alors pour le concert, vous avez soit la FNAC, soit à la billetterie au centre Le Bourneau. On rappelle les prix qui sont relativement doux, de 10 et 12 euros. Et puis pour la projection, en effet, il faut simplement appeler le navire. C'est eux qui sont en charge de la billetterie, puisque là, c'est une autre conception des choses avec le CNC, etc. etc.
Et c'est à 6,50 euros la projection.
C'est à 6,50 euros.
Et qui est de vendredi 18 à 20h.
C'est ça.
Et c'est vrai que du coup, ça nous ramène à la question des partenaires.
Ouais.
Et c'est hyper important pour nous, pour le service culturel. Donc, Fréquence 7, vous en faites partie. Donc soutien à Fréquence 7 et aux radios locales, que tu as citées tout à l'heure. Et voilà, vous êtes des acteurs culturels en fait. Vous êtes des radios locales et vous êtes des acteurs culturels. Voilà, donc je pense que c'était important qu'on dise ça aussi de la ville et du service culturel. Après, donc les partenaires sur ce projet, donc on les a déjà cités. Mais moi je voulais revenir sur la genèse un peu de ce projet, puisque finalement c'est le croisement de plusieurs pistes et d'une très belle rencontre. Je tourne la tête vers mon voisin de gauche, celui qui est le plus loin de moi. voilà, Plume. Et c'était aussi l'envie pour le service culturel de la ville d'Aubenas de renouer avec certains gros événements qu'on a pu monter il y a quelques années de ça, Invitation A. On continue avec le Festival de bande dessinée. Mais voilà, proposer un vrai temps fort avec de l'expo, du concert, des conférences, des rencontres avec des artistes. Voilà, ça on sait faire, on l'a fait depuis longtemps, c'est une de nos forces. Et voilà, donc cette rencontre, elle a rendu ça possible. Et puis évidemment, notre cheville ouvrière préférée, notre couteau suisse, bis, Armand, qui est à la manœuvre. Et hyper enthousiaste, ouais.
Toujours, faut pas me pousser beaucoup, moi.
Voilà, donc bon, on s'était interrogé sur les années 80, parce que c'est aussi les 40 ans du Centre Le Bourneau, il y a beaucoup de 40 ans. Donc on n'a pas allé sur tenue de soirée, mais voilà, on est parti sur d'autres esthétiques, mais qui seront plus rassembleuses à mon avis. Le punk est plus rassembleur.
peut-être, ouais. Et puis effectivement, sans vouloir revenir à l'introduction de cette émission, c'est aussi des années où comment on va faire moins, enfin comment on va faire plus avec moins, quoi. Mmh. Comment là on tombe aussi dans la gueule de bois.
C'est partagé.
À la fin des années 70, début des années 80, gueule de bois économique où il faut se réinventer aussi, on a envie de tout faire péter peut-être aussi.
Oui, parce que c'est une époque qui est partagée entre une production, enfin la production devient de plus en plus présente dans les albums, qui s'aseptise, les studios ont de moins en moins de personnalité, de résonance, qu'on enregistre à un endroit ou à un autre, on sent des sons qui sont totalement maîtrisés. Et c'est pour ça que cette partie-là, au contraire du do-it-yourself, du on se débrouille, on fait de la musique en dehors des circuits, c'est ça qui crée vraiment l'intérêt. Enfin, pour moi, l'intérêt musical de cette décennie, elle se trouve là, et pas justement dans les albums qui sont surproduits par rapport même aux années 70, où déjà ça commençait à prendre un certain pas.
Ouais, mais il y a quand même des croisements, non? Alors, je m'adresse à toi, Plume, après, entre justement des productions alternatives et puis des productions un peu plus. Mainstream.
C'est-à-dire que, bon, en général, enfin, la plupart des musiciens, ils sont pas forcément, ils choisissent pas forcément le mode alternatif pour, ouais. Ils sont obligés, s'ils veulent avancer, de faire des trucs dans le circuit alternatif, puisque les maisons de disques, même s'il y a un gros changement dans les années 80, puisque les radios deviennent libres, donc ça, c'est un point important pour vous comme pour nous, c'est-à-dire que, on va pouvoir entendre notre musique à la radio, donc alors qu'elle n'est pas représentée dans les radios mainstream. Et puis, on se débrouille soi-même avec ce qu'on peut et on fait au mieux. Mais quand même, on a envie aussi de faire de mieux en mieux. Je pense aussi que c'est dans ces années-là que les musiciens français deviennent plus professionnels. Parce qu'on... En fait, on peut avouer, hein, il y a toujours eu un retard de la France par rapport à l'Angleterre et aux États-Unis. C'est-à-dire, on repompait en général leur catalogue pour en faire des adaptations françaises, en général moins bien. Et donc, on n'était quand même pas hyper bien considérés, les musiciens français, dans le monde. Je pense que dans ces années-là, ça commence à changer. Pour moi, on a atteint le top avec Daft Punk, où là, vraiment, la France devient respectée dans le monde entier par un mouvement, la French Touch, etc. Là, ça y est, on a atteint le même niveau que les autres. Mais il y avait un certain retard dans les années 70 et même 80, et c'est les années 80 où on commence à le combler, ce retard, devenir plus professionnel. Et puis, du coup, il y a des gars qui montent des labels, il y a des gars qui vont monter leur studio, qui vont pour devenir autonomes. Donc, le fait d'avoir une production aussi léchée que les trucs habituels, ça va prendre du temps, mais ça vient. Et puis, en plus, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un autre son qui sort. C'est-à-dire que, comme dit Armand, tout était un peu pareil. Et là, du coup, il y a des sons de qualité qui vont sortir, mais qui vont être différents. Donc, il y a des, par exemple, on a Rita Mitsuko qui débarque dans ces années-là. Donc, c'est quoi Rita Mitsuko? Ouais. Est-ce que c'est alternatif ou est-ce que c'est commercial ou est-ce que c'est mainstream? C'est les deux, en fait. C'est
exactement.
Tout. Ouais. Et personnellement, je pense que c'est l'objectif qu'un artiste en général, pas simplement dans la musique, doit avoir. C'est ça. C'est ce mélange, arriver à faire quelque chose d'alternatif, mais qui devient populaire. Et les Négresses Vertes, Mano Negra, enfin des gens comme ça, qui ont fait
boucher.
Les garçons bouchers qui ont fait des trajectoires et un super boulot de défrichage pour d'autres musiciens. Si on en revient à Casse-Product, il y a aussi l'arrivée de l'informatique et des synthétiseurs dans la musique. Ça, c'est quand même nouveau. Et Casse-Product, c'est un des premiers groupes à s'en emparer et à faire cette formule duo machine-voix. Qu'on va retrouver après dans plein d'autres Eurythmics, par exemple, qui avouent qu'ils ont été inspirés par Casse-Product. Ça, c'est quand même formidable. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'aussi, la particularité de Casse-Product, ils avaient une reconnaissance en France, mais ils avaient une reconnaissance en Angleterre, ce qui était beaucoup plus difficile à obtenir à l'époque pour des musiciens français. On considérait toujours qu'on était un peu à la traîne, un peu, ce qui était vrai, un peu. Hein. Et puis, voilà, en Angleterre, en Allemagne, enfin, ils ont une reconnaissance internationale que n'avaient pas forcément les autres groupes, du fait qu'ils chantaient en anglais aussi. Hein. Mais donc, voilà. Enfin, je vais arrêter de parler un peu. Parce que...
J'aime bien quand il y a plume, hein. On s'économise.
Des groupes comme Depeche Mode, ils ont suivi derrière. Hein. On voit les machines. Alors après, le plus mauvais côté de ça, c'est que des Français se sont dit, tiens, on va refaire du Depeche Mode à la française. Enfin bref, il y a eu des trucs qui sont sortis. Bref, partenaire particulier. Enfin bon.
Oui, ben, je sais bien. Je sais bien, mais il faut de tout aussi pour plaire à tout le monde. Enfin, il faut avoir du choix. On ne peut pas faire que de l'alternative, proposer que de l'alternative. Je pense que c'est intéressant de capter d'autres publics. C'est pour ça que le fait de partir d'un projet alternatif et de le rendre populaire, pour moi, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Enfin, que moi, je trouve intéressant.
Et c'est ce que propose, par exemple, le service culturel de la ville d'Aubenas, en proposant, alors déjà au quotidien, au jour le jour, avec justement les alternatives qui commencent à émerger, que vous proposez aussi pour faire écouter au plus grand nombre, mais aussi dans le cadre de ce temps fort, puisque vous allez mettre en avant, en valeur, les alternatives de l'époque, avec cette expo qu'on peut déjà voir d'ailleurs dans trois lieux de la ville.
Oui, sur la façade du Centre Le Bourneau, à l'Agora et un petit peu à la place du Château.
Mmh. Avec une petite... J'ai pas vu de... Mais j'ai peut-être mal regardé. J'ai pas vu les noms.
Armand, peux-tu répondre ?
C'est parti. Je crois que... Oui, alors ça, c'est un vrai choix qui m'est reproché tout le temps, mais que je maintiens.
Mm-hmm. Je combattrai. Là, c'est une question, c'est pas un reproche.
Bout. Mais c'est souvent un reproche. Donc, je pars déjà du principe que si on reconnaît pas Alain Bashung ou les Rita Mitsouko ou David Bowie, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'on les connaît pas, qu'est-ce que ça change de savoir que ce sont eux, en fait? Je trouve. Le truc, il est plutôt que ces photos, pour moi, quand j'ai découvert Richard Belliat, en fait, je me suis jamais ennuyé à regarder ces photos. Je les ai regardées pendant des plombes et des plombes et des plombes. Et je me disais pourquoi. Parce qu'il y a une dynamique très particulière, c'est là où c'est un vrai artiste, et je trouve que le sujet, sa photo dépasse le sujet. C'est-à-dire que l'intérêt de la photo, la force artistique, dépasse le sujet qui est dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que j'ai voulu justement, en ne mettant pas de nom, c'est ne pas pervertir la vision d'une photo ou l'appréhension, je dirais, de cette photo par le public, par le fait que c'est un nom.
D'accord.
Tout simplement. Mmh. C'est que les gens soient portés par ce que racontent ces photos, par l'énergie qu'il y a dans ces photos, et pas par ce que c'est l'Hérita, parce que c'est Joe Strummer, etc. etc.
Et pour toi, ça prendrait le pas? Parce qu'on peut faire, c'est comme la question de l'alternatif et du populaire, hein, ça peut être les deux. On peut être submergé, se laisser submergé par toutes les émotions que nous procure ce cliché noir et blanc.
Oui.
Et en plus, se dire « Ah mon Dieu, il ressemble à ça
Là où je le regrette, en fait, peut-être, c'est pas sur justement le nom des stars qui sont représentées, mais plus peut-être justement sur des photos qui ne représentent pas de stars. Par exemple, il y a un concert de Run DMC, c'est juste une devanture, il y a les concerts, il y a de Bobby, ça se passe à Londres. Et là, je me dis que ça aurait pu être intéressant, en effet, d'avoir une... J'ai ce regret plus dans ce sens-là, pour contextualiser un moment, que pour afficher le nom de certaines personnes. Mais bon, c'est...
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une chromatique que l'on retrouve partout. Donc, en plus du noir et blanc, on a ce rouge qui marque les photos, les titres, les choses comme ça. Et nous, à Fréquence 7, comme on a un beau rouge, ça nous va bien.
Hein. Parfait.
L'expo, je l'ai dit, elle est déjà visible et elle sera visible jusqu'à début novembre, c'est ça ?
Elle sera visible jusqu'à début novembre.
Et juste avant les rencontres de cinéma.
Ouais.
Exactement. Et donc, pour finir ça, il y a quand même la visite commentée de Richard Belliat. Donc, voilà. Si les gens veulent découvrir si on ne reconnaît pas Alain Bashung, ils pourront se promener avec Richard Belliat le samedi à 16h. pour cette rencontre où ils vont échanger. Tu m'as perturbé.
Ouais. Oui, parce que voilà, Richard est vraiment un témoin de cette époque. Il est à la fois le témoin qui a pris en photo des témoins, mais lui-même en est un. Et un formidable guide.
Il nous a dit qu'en fait, sa première photo pro, on va dire, c'est Cure, c'est un concert de Cure.
En 1980.
Voilà, donc c'est sa première photo, et d'ailleurs, il n'a pas lâché Cure depuis. il a plein de photos de Robert Smith, et notamment, là, il est ravi de la sortie du nouvel album.
Et voilà.
Pardon.
Qui vient d'être annoncé, c'est dont ça, le nouvel album.
Dont je ne connais pas le titre.
Moi non plus, mais voilà. Pour en revenir au niveau de l'émission, j'ai un concert de Cure que je vais diffuser qui date du tout début, qui a été enregistré, je crois, à l'Olympia. Ça se trouve au moment où cette personne a fait cette photo.
L'album s'appelle Songs of a Lost World.
Voilà.
Songs of a Lost World. Voilà.
Et l'expo va s'enrichir d'autres photographies au navire aussi.
On va chercher Richard.
On a du mal à s'y faire.
Non, c'est jeudi, donc jeudi il y a le...
Non mais ce mercredi, on va chercher Richard et son expo, on l'installe pour le vernissage jeudi.
Voilà, vernissage jeudi.
À 18h30 au navire. Et là aussi c'est un autre espace de rencontre, parce que c'est vrai que la balade, on va être limité à une trentaine, quarantaine de personnes, c'est difficile de faire plus, donc... S'il y a 20, 30 personnes, c'est parfait. Par contre, s'il y a plus de monde, ça risque de devenir compliqué. Par contre, les gens, ils peuvent tout à fait venir rencontrer Richard Bellia ce jeudi à 18h30, on sera donc le 17, pour le vernissage de cette exposition, découvrir ses œuvres et échanger avec lui autour de ses œuvres.
Et tout ça en présence des musiciens de Casse Product, des journalistes aussi qui sont invités, des auteurs qui sont invités.
Merci, transition, j'allais y venir. Un autre rendez-vous, c'est aussi la signature de leur livre, donc Jean-Éric Perrin et Jean-François Jacques. Un mot de ces Jean-Éric Perrin, rédac chef de Rolling Stone.
Ouais,
vous en parlez. Ouais.
Surtout Jean-Éric Perrin, quand il a commencé, il a fait une rubrique dans Rock'n'Folk qui s'appelait Frenchy Butchik. Donc c'est dans les années 80, et c'est là qu'il a mis en valeur, enfin qu'il a présenté des groupes dont les autres journaux ne parlaient pas, notamment Casse Product, mais un peu tous les autres, Rita Mitsuko, Mark Itzad et d'autres.
Edith Nilon,
voilà, aide-moi, parce que moi, j'ai pas forcément une très bonne mémoire.
Asphalt Jungle, aussi, ben, après, voilà, qui est venu. Qu'est-ce que tu veux, Taxi Girl, on peut pas oublier Taxi Girl.
Bah, bien sûr, Taxi Girl, c'est vrai. Donc voilà, Jean-Éric Perrin, c'est ça au départ. Et ensuite, il a fait une super carrière de journaliste, puisqu'il a été rédacteur en chef adjoint de Best, je crois, rédacteur en chef de Rolling Stone France. Voilà, c'est un gars qui a sorti je ne sais pas combien de bouquins. Et ce qui tombe bien aussi, c'est que c'est aussi un anniversaire pour la FNAC. C'est les 70 ans de la FNAC. Et donc, ils rééditent des albums. Et notamment, ils vont rééditer deux albums de Casse Product.
Donc, parmi les 70 albums à rééditer, deux. Voilà, ils en ont choisi deux de Casse Product.
Voilà, c'est quand même une référence. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on organisait notre événement, hein. Ça s'est passé comme ça. Et pareil pour les bouquins, c'est-à-dire que voilà, et Jean-Éric Perrin, ça fait longtemps qu'il travaille avec la FNAC sur des séries, avec des thèmes, on lui donne des thèmes et il développe là-dessus. Donc il y a plein de bouquins de lui qui seront là présents.
Alors on doit bientôt... On doit se dépêcher. Jean-Éric Perrin, Jean-François Jacques aussi qui sera là pour.
Alors Jean-François Jacques, en fait c'est un ami. En fait, c'est-à-dire bon, j'ai joué dans Casse Product, mais j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Lily Drop, et il y avait un gars qui s'appelait Olive là-dedans, et il a écrit un bouquin en hommage à Olive. Donc merci beaucoup.
Soleil noir.
Olive qui était un copain de Jean-Louis Aubert.
Voilà, on était tous... j'étais au lycée avec Jean-Louis Aubert, donc on était tous... on se connaît tous depuis l'âge de 15-16 ans.
Ah, c'est bon ça. Et puis évidemment, on en parle depuis le début. La Tour Eiffel sur Paris, c'est le concert de Casse Product. Donc samedi, avec en première partie Katchakin. Et ça aussi, ouais. C'est intéressant.
Passionnant même.
C'est ça, Katchakin. Voilà. On se dépêche parce qu'il y a encore pas mal de choses. On va s'écouter une petite minute asso avant de terminer l'émission et avant de que tu nous dises un mot de la suite des programmes sur Fréquence 7, notamment avec ton émission DJ Steph Hexagon Live ce soir à 21h. Vous trouverez toutes les infos de ce temps fort sur le site du Bourneau, sur le Facebook du Bourneau. Il y a plein d'affiches, effectivement, noires et blanches, avec cette petite pointe de rouge pour le post-punk. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, avant de...
Faut venir, hein, s'il te plaît, voilà. Pour 3 soirs.
On vous attend.
Non, mais ça va être riche, c'est clair que ça va être un moment vraiment d'échange, de partage, de richesse. Et encore une fois, c'est vrai, Katchakin, c'est aussi quelqu'un vraiment, une artiste vraiment à découvrir. Là, pour le coup, on a un plateau féminin, les deux, là.
Et sinon,
sans costaud.
J'ai envie de dire que Katchakin, pour avoir écouté un peu, elle a digéré un petit peu toutes ces musiques-là, toutes ces influences-là.
Complètement. Voilà. Je l'avais repérée avant, je voulais la programmer avant d'avoir rencontré Plume. Et j'ai fait le lien avec Casse Product, et elle-même, et avoue être fan de Casse Product, je crois qu'elle serait venue à Paris à genoux ou sur les genoux pour jouer avec Casse. Et elle a cet avantage aussi sur scène, les deux sont des bêtes de scène, et elle est comédienne également. Et voilà, en général, les chanteuses qui sont aussi comédiennes dégagent quelque chose. Enfin bon, c'est une soirée immanquable, quoi.
À retrouver samedi, et toute cette ébullition déjà dans les rues d'Aubenas grâce aux photos, et à partir de jeudi. Merci beaucoup, et ben c'est la minute asso, non ?
La minute asso.
Et dans la minute asso de ce lundi, nous recevons Samuel Géry de la Fédération des foyers ruraux Ardèche-Drôme. Bonjour Samuel.
Et bonjour.
Tu viens nous parler des prochaines formations à destination des bénévoles et d'une en particulier.
C'est ça.
Alors d'abord, ces formations, à qui s'adressent-elles ?
Alors ces formations, elles s'adressent aux bénévoles du monde associatif, de manière générale. Nous, pour ce qui est de la Fédération départementale des foyers ruraux, on en propose une douzaine à peu près par an. Et voilà, on travaille aussi avec le GDOS et AMSUD, qui aussi ont un programme de formation à destination des bénévoles associatifs.
Donc vous êtes 3 opérateurs, mais vous fonctionnez pour tout le monde. Il n'est pas utile qu'une association soit adhérente à l'une de ses têtes de réseau.
Non, absolument pas. Il n'y a pas de condition d'adhésion ou quoi que ce soit pour participer à ces formations. Il faut savoir qu'elles sont gratuites pour les bénévoles associatifs.
Ok, super.
Ouais. Et donc, ces formations, ça peut traiter un petit peu de toutes les thématiques qui touchent au monde de l'association. Ça peut aller de comment créer son association, comment gérer sa comptabilité, comment animer un temps institutionnel... voilà, et après on peut faire des formations un peu plus spécifiques sur certaines thématiques en fonction des besoins que les associations nous font remonter au local.
D'accord. Alors là, il y en a une prochaine sur laquelle tu aimerais que tu aimerais annoncer, qui a lieu ce jeudi. C'est une formation sur la SACEM.
C'est ça. Donc jeudi 17 octobre, nous organisons une formation au sujet de la SACEM. Donc il y a un délégué régional qui se déplace à l'USAS, et qui va venir pendant 2 heures, 2 heures et demie nous expliquer voilà, le fonctionnement de la SACEM, à quoi ça sert, nous expliquer les tarifs un petit peu et les démarches à faire pour déclarer un événement auprès de la SACEM.
Oui, parce que c'est ça, ce sera le cœur de la formation.
C'est ça, exactement. Toutes les associations qui mettent en place des événements sur le territoire qui sont ouverts au public doivent déclarer à la SACEM leur événement pour diffuser de la musique. En fait, de la musique, des poèmes, des textes littéraires, enfin voilà.
Oui, puisque la SACEM, on rappelle, c'est la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
C'est ça.
Donc ça inclut toutes les productions issues de César.
Exactement, ça inclut tout ça. Et donc, il faut savoir que quand on est une association et qu'on organise un événement, que ce soit une kermesse, un bal, qu'on tient un stand, un concert, il faut déclarer au minimum 15 jours avant à la SACEM cet événement. Et après, la SACEM va fournir un document, une attestation, comme quoi l'association a le droit de diffuser telle et telle musique. Et en fonction du nombre de participants à l'événement, du lieu, de la gratuité ou non, ça va faire un certain tarif à payer à la SACEM pour l'événement en question. Après, il existe aussi des forfaits. S'il y a des associations qui font tous les mois un bal, il existe des forfaits annuels pour ce genre d'événement-là. Voilà, les seuls moments où la SACEM ne s'applique pas, c'est dans le cadre d'événements privés, familial. Voilà. Mais en tout cas, pour tout ce qui est mise en place de musique, que ce soit par les radios, par des plateformes, par des CD, par des vinyles, tout ça, il faut déclarer à la SACEM son événement, soit par téléphone, soit sur la démarche en ligne sur leur site.
Donc 15 jours avant l'événement.
C'est ça.
Donc la formation aura lieu donc à l'USAS, où ça ?
Dans le bâtiment de l'Imaginaire, à l'USAS.
D'accord. C'est un jeudi, alors vous proposez ces formations à quelle période, enfin à quel moment de la journée ?
C'est en soirée, pour essayer de, voilà, de que ça soit adapté au plus grand nombre de personnes possible. Et donc c'est en soirée de 17h30 à 20h. Voilà. À l'USAS, et c'est gratuit. Donc pour s'inscrire, vous pouvez retrouver l'information sur le site des foyers ruraux ou sur le site de Guidasso. Je sais qu'on en a parlé dans les dernières chroniques. Ou sinon, appelez tout simplement la Fédération des foyers ruraux, on pourra renseigner là-dessus.
Guidasso 07.
C'est ça, exactement.
Bah merci beaucoup Samuel. Allez-y, parce que nous sommes nombreuses et nombreuses ici en Ardèche à proposer des événements, et c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant.
C'est ça, c'est important.
Merci à toi, à la prochaine.
Merci beaucoup.
La Minute Asso.
Et c'est la fin, tout doucement, de cette émission L'Onde Curieuse consacrée aux années 80, les années post-punk. Mais restez quand même à l'écoute de Fréquence 7, parce qu'il y a plein de choses, outre la meilleure des musiques alternatives et indépendantes, toujours sur nos ondes. À 13h, c'est Haïku tout court. À 15h, le Telex, c'est vos annonces, vos messages, au 04 75 93 30 25. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, c'est Solidaire d'abord, la rediff. À 18h45, Les Mondes demain, consacré à l'éloge du bricolage. Ça peut nous inspirer avec 35% de budget en moins. À 19h, c'est l'écho du parquet, les musiques trad et dansantes. Et à 21h, on y vient. Un dernier mot, c'est toi qui vas clôturer, DJ Steph, Hexagon Live spécial Market Sad et la scène post-punk.
Voilà. Je vais donc en fait diffuser donc Market Sad, et je fais le pont en fait avec Étienne Dao. C'est-à-dire que le Market Sad, les musiciens ont commencé à travailler avec Étienne Dao. Étienne Dao faisait ses chansons dans son coin. On entendra d'abord en fait des prestations télévision de Market Sad, puisqu'il n'existe pas d'album live officiel. Et puis ensuite des petites démos comme ça qu'Étienne a travaillé avec les musiciens de Market Sad, et puis jusqu'à 1980, l'élaboration de son album. Market Sad donc en fait split. Et voilà, on entend en fait un petit fond musical derrière moi, là, une version live enregistrée sur une cassette de Tonsi Dush.
Je cherche la petite bête. Pour moi c'est un vrai casse-tête. Il y a de quoi s'y perdre quelquefois.
Et donc ça sera une occasion de redécouvrir un peu ce premier album d'Étienne Dao, qui est sorti donc en 1981 déjà, en pleine période où plein de gens étaient, plein de choses arrivaient et étaient possibles. Les radios libres étaient officiellement déclarées. Enfin bref, voilà.
Alors, vive le punk et vive les radios libres et vive le post-punk et vive le post-radio libre, qui seront toujours libres. Merci, on se retrouve. Merci à tous les quatre d'avoir été là avec nous. Merci. Merci Sylvain.
Merci à vous.
Pour la réalisation de cette émission, on se retrouve demain pour une prochaine Onde Curieuse. Ciao.
Ciao.